Donc, prions pour cela, chers amis, que le Seigneur nous aide. Vous allez trouver sur le dos de votre feuillet un schéma qui va indiquer là où vous allez essayer d'arriver dans plus tard. Donc, gardons ça sous les yeux, ainsi que le texte de Deutéronome, chapitre 4. Et je vous invite à la prière. Pour que tu saches que l'Éternel seul est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Parle-nous, Seigneur, nous te prions. À travers ce texte de Deutéronome 4, donne-nous à comprendre que tu es le seul Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre. Et donne-nous donc de vivre à la lumière de cela. Pour ta gloire, nous te prions. Amen. Amen. Alors, j'aimerais commencer avec quelques personnages. Oui, fictif, mais néanmoins, j'espère que pour certains d'entre nous, on se retrouve là-dedans et on comprend un peu pourquoi j'en parle. Donc d'abord, il y a Grace. Grace est une femme d'une vingtaine d'années. Elle vient d'une famille chrétienne, mais elle est en train, à ce moment de sa vie, de découvrir via ses études à l'université et de nouvelles amitiés autour d'elle dans son cote, que d'autres ont une autre façon de vivre et de croire. Ce qui est pour elle dans son milieu chrétien tout à fait exclu, semble de ne pas être exclu ailleurs. Et bien sûr, c'est une évidence, lorsqu'elle arrive là où elle se trouve, que la foi chrétienne n'est pas le seul moyen de concevoir l'adoration de Dieu. Rien que là, dans sa bande d'amis, il y a 3 musulmans, il y a 5 catholiques, il y a 2-3 juifs. Et donc, elle est exposée à cette réalité. Et elle se demande comment faire face à cela. Ensuite, il y a Claude, qui est dans la quarantaine, qui découvre l'Église de Jésus-Christ à travers un ami. Oui, certains coups difficiles dans sa vie personnelle l'ont mené à une ouverture, on dirait, à propos du message d'un Dieu d'amour dont parlent des chrétiens. Ses difficultés l'ont rendu assez sensible à propos de ses propres faiblesses, lui ont donné soif d'un Dieu qui comble ses désirs de trouver une paix dans sa vie, une direction claire pour sa vie. Mais il se sent toutefois un peu perdu dans cette église, lors des prédications, lorsqu'on parle de devoir lire la Bible. Il n'a jamais été super fort dans la lecture et tout cela le rend un peu froid, il faut le dire. Il préfère quelque chose de plus concret, de plus tangible. Ensuite, il y a Camille. Camille, elle est dans la soixantaine, chrétienne de longue date. Elle a vu ses enfants grandir et ensuite partir. Et ça fait maintenant une dizaine d'années depuis qu'elle se retrouve seule avec son mari. Son mari qui, lui, a moins d'énergie qu'elle, un peu accablé par certaines difficultés de santé. Oui, ils sont fidèles, toujours à leur église. Mais elle trouve, et l'église, mais aussi son mari, un peu trop figé, qui stagne un peu dans sa foi, trop peu ambitieux pour la retraite à deux. Lorsqu'elle mange à midi avec ses amis de l'ASBL, dans laquelle elle est aussi impliquée, elle entend parler de leur projet. Et elle a soif de ne pas gaspiller ces dernières années qu'elle a lorsque sa santé à elle tient bon. Elle aimerait découvrir un peu plus le monde. Deux de ses amis se sont divorcés ce dernier temps et témoignent en fait d'une liberté, d'une nouvelle jeunesse qu'elle découvre. Dieu, bien sûr, a une place dans sa vie, mais elle commence à se demander si un Dieu d'amour veut vraiment l'empêcher de vivre de façon épanouie. Alors là, nous avons Grace, Claude et Camille. Alors quel est le plus grand besoin de ces 3 personnes? Je pense, voyez-vous, qu'il y a un danger en tout cas avec les deux femmes, avec Grace et Camille, de devenir un peu trop vite moralisateur dans nos conseils. À Grace, je dis, il ne faut pas te préoccuper de ce que les autres font et pensent autour de toi. Il faut simplement continuer dans ce que toi, tu connais. Il faut continuer à faire ce qui est bien. Reste dans ta bulle évangélique. Ça te protégera. Et à Camille, nous allons peut-être dire, mais il ne faut pas suivre, s'il te plaît, ce que tes amis te disent. Il faut rester fidèle à ton mari. Point à la ligne. Et pour Claude, je pense qu'il y a un danger, tant qu'il est content dans notre église, de lui dire, ne t'inquiète pas pour tout ce qui est la Bible. Dieu est amour, c'est vrai, ça te suffit, c'est bien. C'est pas grave si tu n'arrives pas à suivre les prédications ou lire la parole. Mais dans les trois cas, ce dont ils ont le plus besoin, c'est Dieu. Dieu. Non pas Dieu tel qu'ils veulent qu'il soit, mais Dieu tel qu'il est. Ce n'est qu'une compréhension grandissante du Dieu qui est là, qui est réellement Dieu, qui les permettra à vivre de manière conforme à Dieu. Se contenter d'un message moralisateur n'a pas la puissance nécessaire pour nous convaincre que le Dieu de la Bible vaut la peine d'écouter, vaut la peine de suivre, vaut la peine de croire, malgré ce que les autres autour de nous nous disent. Car si c'est vrai que les idoles de notre société sont mauvaises, c'est vrai, c'est aussi vrai que ces idoles sont attirantes. La société autour de nous crie à haute voix, n'est-ce pas, à quel point leur voix est meilleure que la voix de la foi chrétienne. Donc pour ne pas dévier vers ces idoles-là, tous les trois personnages ont besoin d'apprendre ou de réapprendre qui est ce Dieu qui nous sauve en Jésus-Christ. Et le livre de Deutéronome entre bien en jeu à ce stade, car ce livre a pour but de mettre en évidence le caractère de Dieu. Le peuple de Dieu, autrefois comme encore aujourd'hui, est oublieux, vous savez. On oublie qui est Dieu et pourquoi il est digne de notre confiance. Au début du livre de Deutéronome, nous sommes, voyez-vous, à un moment clé dans l'histoire du peuple de Dieu de l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, issu de la lignée d'Abraham, ensuite d'Isaac et de Jacob. Dieu a délivré ce peuple d'esclavage en Égypte. Il l'a fait par des prodiges, des signes, par sa main puissante. Nous avons eu un écho de ça vers la fin de notre lecture. Il a amené ce peuple vers le pays promis, la terre promise. Il a parlé à ce peuple au mont Sinaï, appelé dans notre texte Horeb. Et Dieu a donné sa loi à son peuple, à travers Moïse, le chef du peuple. Mais au lieu de faire confiance à leur Dieu, au lieu de lui obéir, la première génération sortie d'Égypte s'est rebellée contre Dieu. Et par conséquent, Dieu les a contraints à tourner dans le désert pour 40 ans avant d'entrer dans la terre promise, afin que ceux au-dessus de 20 ans, lors de la rébellion qui avait lieu à Kadesh, meure dans le désert. Moïse lui-même devait faire partie de cette génération-là. De nouveau, notre texte a évoqué cela. Mais maintenant, au début du livre de Deutéronome, les 40 ans sont sur le point de terminer. Moïse rassemble donc la nouvelle génération sur le point d'entrer enfin dans la terre promise. Et ils sont rassemblés dans la plaine à l'est du Jourdain. Cela est ce que le début du livre, au chapitre 1, verset 1, nous le dit. Peut-être on peut juste mettre la carte pour quelques secondes chez Samuel. Et on peut juste voir tout cela visuellement, si nous l'avons. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à lire quelque chose ici. Est-ce que j'arrive à faire ça? Non, ça ne marche plus. Bon, je ne sais plus pourquoi. Alors, ici, mes amis, vous voyez l'Égypte, ici à gauche. Et de l'Égypte, le peuple est parti vers donc, le désert, ici. Ils se donnent rendez-vous au Mont Sinaï. Voilà, je l'ai maintenant, merci. Au Mont Sinaï, il se peut que ça ne soit pas là exactement, parfois c'est un peu débattu. Et ils devaient de là entrer ici vers la terre promise, le pays du lait, du miel, si on se souvient de ça. Donc c'est un beau pays. Mais au lieu de monter directement, ils sont ici, à Kadesh, ils se sont rebellés contre Dieu. Et cela a eu pour effet que la génération, au lieu de monter ici, devait tourner plutôt ici dans le désert. Et qu'est-ce qui se passe à la fin de ces 40 ans? Ils se trouvent en train de faire un encampement à côté, à l'est du Jourdain, ici, avant d'entrer dans la terre promise. Et là, il y a Jéricho, c'est là la ville qu'ils ont ils allaient prendre en premier lorsqu'ils entraient dans la terre promise. Donc, Deutéronome, on est là, en train d'écouter Moïse qui instruit la nouvelle génération de ce qu'il en est de leur entrée dans le pays. Et le livre de Deutéronome se compose donc de trois grandes prédications. Il y a une prédication dans les quatre premiers chapitres, il y a une deuxième dans les chapitres grosso modo 5 à 28, et il y a une troisième dans les chapitres 29 à 30. Et ce que nous avons lu, le chapitre 4, c'est à la fin donc de la première prédication. Jusque-là, dans cette prédication, Moïse a fait un bilan de l'histoire de cette génération rebelle dans le désert de Horeb jusqu'à la plaine à l'est du Jourdain, à Moab, dans le désert. Et à la fin de ce bilan, Moïse se tourne vers cette nouvelle génération pour appliquer ce qu'il vient de dire à eux, afin d'instruire cette génération à propos de Dieu, ce que ça implique d'avoir Dieu, le Seigneur, comme leur Dieu. Car oui, si Dieu les fait entrer dans le pays, comment sera-t-il leur vie en tant que peuple de Dieu une fois qu'ils y sont? C'est ça la question. Car ils ne sont pas un peuple comme un autre, ils ont été choisis par Dieu, délivrés d'Égypte par Dieu. Et ils ont besoin de comprendre ce que c'est de vivre pour Dieu lorsqu'ils sont entourés des autres nations, d'autres dieux que ces habitants de ce pays promis ont adoré jusque-là. Ils doivent comprendre le peuple de Dieu, au-dessus de toute autre chose, qui est leur Dieu. Et donc, nous allons voir là maintenant, de manière assez rapide, je pense, cinq choses qu'ils devaient comprendre à propos de Dieu. Le Dieu de la Bible est. Et donc, premièrement, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui exige l'obéissance. Le Dieu qui exige l'obéissance. Cela est clair, n'est-ce pas? Dès le début du message. Verset 1, « Écoute Israël, pour mettre en pratique les prescriptions, les ordonnances. » Verset 2, « Vous observerez mes commandements, les commandements de l'Éternel, votre Dieu. » Début du verset 6, « Vous les observerez, vous les mettrez en pratique. » C'est pour cela que Moïse met un accent sur le fait qu'il les a enseignés, verset 5, des prescriptions et des ordonnances de l'Éternel. C'est important pour qu'ils comprennent comment vivre avec leur Dieu. Bon, imaginons maintenant que nous travaillons dans un centre de contrôle de santé Ebola au Nord-Kivu. Et au lieu de mettre tout le costume qu'il faut, des habits qui protègent, vous faites fi de tout cela. Vous vous dites, bah, pour moi, ça m'est égal. Je ne vais pas me soucier de toute cette protection qu'il faut. Bah, de faire ainsi sera une folie, sera dangereux, parce que les consignes nous protègent de la maladie. Bah, de ne pas comprendre ce que Dieu s'attend de ceux qui l'ont sauvé, c'est dangereux. C'est de nous mettre en difficulté par rapport à Dieu. Et j'aimerais donc vous demander, est-ce que cela est une surprise pour vous? Que oui, Dieu demande de l'obéissance. La foi dans le Dieu de la Bible, ce n'est pas d'abord un choix pour une spiritualité qui me convient à moi, qui prône mon épanouissement personnel. Non, la foi biblique, c'est de reconnaître que le Dieu qui m'a créé, c'est le Dieu qui a droit à mon obéissance. Ce n'est pas parce que ce texte se trouve dans l'Ancien Testament que les chrétiens peuvent dire « Ah oui, sous l'ancienne alliance, ils avaient beaucoup de lois à obéir, mais sous la nouvelle alliance en Christ, nous sommes sauvés par la grâce. Donc, pas besoin pour moi de soucier de toute cette obéissance et prescription. » Non. Que disait Jésus au début de son ministère? Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La preuve que j'ai cru à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est que je me soumets à ce que Jésus-Christ me dit. Traiter Dieu comme s'il me convient uniquement lorsqu'il dit des choses avec lesquelles moi je suis d'accord, c'est de chercher un Dieu qui se soumet à moi et non pas l'inverse. Et je pense parmi ces trois personnages du début, Camille, la femme dans la soixantaine, court ce danger-là. Moïse rappelle les Israélites que ce que Dieu avait fait à Baal-Péor, au verset 3, quelques mois auparavant, vous pouvez trouver cette histoire en Nombre 25. Vous pouvez regarder ça avec vos enfants si vous en avez. C'est une histoire saisissante. Phinéas, le fils d'Éléazar, l'un des héros de la Bible, devait intervenir pour sauver le peuple, mais quand même 24 000 sont morts parce qu'ils allaient suivre des idoles. Ils devaient apprendre qu'ils ne pouvaient pas faire ça. Et le verset 2 nous rappelle que nous pouvons nous détourner de ce que Dieu dit par deux façons, en ajoutant quelque chose à sa parole ou en retranchant quelque chose. Là, si vous voulez, c'est le danger, ce qu'on appelle légaliste, d'ajouter encore plus d'exigences de ce que Dieu dit. L'autre, c'est ce qu'on appelle le danger libéral, d'enlever quelque chose des exigences de notre Dieu. Dans les deux cas, chipoter avec ce que Dieu demande, c'est de remplacer Dieu avec un Dieu de notre propre création. Et ça, il ne faut pas faire. Le Dieu de la Bible est le Dieu qui exige l'obéissance. Avoir le Dieu de la Bible comme notre Dieu, nous sommes appelés donc à faire ce qu'il nous dit. Est-ce que vous êtes au courant de cela? Est-ce que vous avez encaissé cela comme étant un fondement pour vivre avec Dieu? Deuxièmement, le Dieu de la Bible est proche et puissant. Versets 6 à 8 dressent un portrait des nations autour d'Israël qui vont observer comment le peuple de Dieu met en pratique la loi de Dieu. Par conséquent, ils remarqueront que le Dieu de la Bible est le Dieu qui est juste, qui est sage. Effectivement, verset 8, « Quelle est la grande nation qui est des prescriptions et ordonnances justes ?» C'était le cas pour la loi d'Israël. Il y avait de la provision pour les pauvres, pour des étrangers, pour des femmes. Il y avait un regard pour la justice, pour la vérité, pour l'amour du prochain. Les nations autour d'Israël ne connaissaient rien de cela. Oui, affirme le verset 7, aucune autre nation a un Dieu aussi proche. Proche qu'à ce Dieu, pas parle à ce peuple. Ce Dieu délivre ce peuple. Ce Dieu pourvoit pour ce peuple. Ce Dieu répond aux cris de ce peuple pour la délivrance. Le Dieu de la Bible, voyez-vous, n'est pas un Dieu lointain qui s'en fiche de ce qui se passe ici-bas, qui est impuissant pour intervenir. Non, c'est le Dieu qui agit. Verset 9, le peuple est exhorté à ne pas oublier les événements que tes yeux ont vus. Oui, nous devons obéir, premier point, notre Dieu. Mais l'obéissance de la foi n'est jamais rien qu'une obligation froide à un Dieu qui est dur et difficile. Non, notre Dieu gagne notre cœur à cette obéissance, car il est proche et puissant. Si la génération sur le point d'entrer dans la terre promise doit se rappeler de leur sortie d'Égypte lors de l'Exode, nous, le peuple de la Nouvelle Alliance, nous devons nous rappeler de Jésus-Christ. Les événements autour de sa naissance, autour ensuite de sa mort, de sa résurrection, de son ascension, qui permettent que nous puissions connaître le pardon définitif de nos péchés. Nouveauté de vie en lui. Notre Dieu a agi puissamment en notre faveur. Et donc, je pense que c'est là où, grâce à la jeune fille à l'université, entourée par d'autres maintenant qui confrontent un peu sa tête en disant mais où trouver le vrai Dieu ? Ben, elle a besoin de se rappeler de ce Dieu qui se révèle à travers de tels événements. C'est pour cela que nous sommes exhortés à ne pas oublier sa proximité, sa puissance. Que les grands événements de la foi, les actions de notre Dieu qui sont au fin du verset 9, qui ne s'éloignent pas de ton cœur, fais-les connaître à tes fils et aux fils de tes fils. Oui, il y a un mot là aux parents, il y a un mot également aux grands-parents. Également, les enfants de notre Église, chers amis, vont jamais vous suivre. Oh, ils vont vous suivre de manière formelle, par respect pour vous. Mais ils ne vont jamais vous suivre dans votre foi s'ils ne voient pas cette foi à l'œuvre dans votre propre cœur. Si par votre expérience de Dieu qui transforme votre cœur, alors là, les enfants entendront parce que vous aurez envie de transmettre non pas juste une obéissance formelle, mais un Dieu qui se révèle à nous comme étant proche et puissant. Troisièmement, nous apprenons ici que Dieu est le Dieu invisible. Invisible, verset 12, Moïse rappelle au peuple comment Dieu s'est révélé à eux. L'Éternel vous a parlé du milieu du feu. Vous avez entendu le son des paroles, mais vous n'avez point vu de figure. Il n'y avait qu'une voix. Oui, depuis la chute d'Adam, les hommes ne voient pas Dieu. Oui, un jour nous le verrons, au du retour de Jésus-Christ. Mais d'ici là, Dieu se révèle à nous, non pas par la vue, mais plutôt par lui. Il nous parle. Donc si vous cherchez Dieu, si vous êtes comme Claude, celui qui arrive dans l'église et est attiré par ce qu'il entend en ce qui concerne l'amour de Dieu, ben j'aimerais vous exhorter à écouter ce que ce Dieu dit. C'est important de progresser, de voir ce qu'il dit, c'est-à-dire d'entendre de ce qu'il dit. C'est vrai, si nous ne sommes pas encore croyants, c'est à travers la parole que vous entendrez le message de Jésus-Christ. Mais c'est aussi vrai que si nous sommes croyants, nous avons besoin de nouveau de puiser la parole de Dieu pour comprendre qui est Dieu. C'est ainsi qu'il se révèle. D'où viennent tous les versets de ce chapitre? L'injonction de prendre la parole de Dieu au sérieux. On ne peut que découvrir le vrai Dieu dans sa parole. Et c'est pourquoi les versets 15 à 20 exhortent le peuple d'Israël de ne pas se tourner vers des idoles. Verset 15. « Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, prenez bien garde à vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une statue. » Verset 19. « De peur que tu ne sois entraîné à se prosterner devant eux et à leur rendre un culte. » Oui, Israël sera entouré des nations païennes qui adorent des dieux, qui ne sont pas peaufinés des dieux. Ce sont des dieux représentés par des idoles de la création. Tandis que le Dieu d'Israël n'est pas de cette création, mais il est le Dieu de toute la création. Il faut donc éviter les idoles pour suivre le Dieu vivant. Et vrai, mais entourer d'autres nations, d'autres personnes autour de nous, comme c'est le cas donc pour Camille, comme c'est le cas pour Grace. La pression, c'est de se dire, peut-être pour finir, c'est pas aussi mal que cela, de s'ouvrir un peu, n'est-ce pas? Peut-être ça fait preuve d'un esprit un peu plus ouvert, de reconnaître qu'il y a d'autres pistes vers Dieu. Peut-être c'est plus aimable de dire, ne vous inquiétez pas, Dieu, s'il n'est pas troublé par votre comportement. Peut-être vous pensez que c'est bien de chercher de l'aide auprès de ces idoles. Par le peuple de Dieu, aujourd'hui, est tenté à adorer les idoles de notre société. Le sport, le loisir, la réussite, l'écologie, la famille, peu importe. Mais nous devons nous garder des idoles, nous dit le Nouveau Testament. Nous rappeler que notre Dieu n'est pas comme ces faux dieux, ces idoles. Non, connaître le Dieu de la Bible, c'est d'avoir été délivré de ces faux dieux. C'est connaître le seul vrai Dieu. Invisible, oui, mais il n'est pas silencieux, le Dieu qui nous a tout créé. Et le verset 20 nous dit que son peuple et son héritage lui appartient. Et cela présente donc en conséquence, quatrièmement, le Dieu de la Bible qui est un Dieu qui est jaloux pour cet héritage. L'Éternel, verset 24, ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Mais vous vous dites peut-être, mais est-ce bien que Dieu soit jaloux? Non pas dans le sens où il se sent inférieur à quelqu'un d'autre, mais dans le sens où il se soucie pour ce qu'il aime. L'opposé de la jalousie, c'est l'indifférence, vous savez. Est-ce bien pour un mari ou pour une femme d'un couple d'être indifférent par rapport à leur amour exclusif l'un pour l'autre? Vous savez, demain, chérie, je pense que je vais dormir avec Y.
Ok.
Ça m'est égal, tu sais, tu fais ce que tu veux. L'indifférence serait une chose terrible dans un couple où il y a un amour exclusif. Mais Dieu n'est pas indifférent à notre égard, vous le savez. On lui appartient, il nous suit, il nous voit, il nous entend. Que nous oublions son alliance, que nous faisons des idoles, ne laisse pas notre Dieu indifférent. Non, notre Dieu nous dit, le texte est un feu dévorant. Grace et Camille doivent se rappeler de cette réalité, doivent connaître que Dieu n'est pas indifférent par rapport à leur comportement. Ne pensons pas que Dieu ne voit pas notre infidélité. Nous sommes privilégiés d'appartenir à Dieu. Mais le revers donc de la médaille, c'est que Dieu prend très au sérieux toute infidélité à son égard. Ce n'est pas la nouvelle alliance qui fait que Dieu n'est pas jaloux. Il est. D'où vient l'exhortation au verset 23? Prenez garde à vous, de peur que vous n'oubliez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a conclue avec vous. Nous devons faire attention, chers amis, de ne pas oublier ce que l'Éternel, notre Dieu, a conclu avec nous pour ceux de la nouvelle alliance. C'est donc de nous rappeler du centre de notre foi, la mort de Jésus-Christ sur la croix. Restons donc fidèles à notre Dieu. Mais Moïse sait toutefois à quel point cette nouvelle génération, pour finir et ultimement, sera infidèle. À partir du verset 25, si vous l'avez remarqué, il parle en prophète. Il sait, à cause de leur infidélité, le peuple sera expulsé du pays. Verset 27 dit qu'ils seront disséminés parmi les peuples, en exil, au milieu des nations. Mais dit-il, de là, tu rechercheras l'Éternel ton Dieu. Verset 29, tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Oui, un retour sera possible pour le peuple de Dieu, car verset 31, l'Éternel ton Dieu est un Dieu compatissant. Il est miséricordieux, il n'oublie pas son alliance. Et de nouveau, l'alliance dont parle ici Moïse trouve son expression ultime, suprême, dans la nouvelle alliance. Une alliance scellée dans le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui s'est donné pour nous. Une alliance qui ne dépend pas de la fidélité du peuple envers leur Dieu, mais de la fidélité de Dieu envers ceux qui se tournent vers lui. Est-ce que vous connaissez cette nouvelle alliance en Christ? Nous ne réclamons plus notre propre obéissance pour notre relation avec Dieu, mais nous réclamons l'obéissance de Jésus-Christ qui permet que lui, le juste, est mort pour nous, les injustes, afin de nous mener à Dieu. Donc oui, nous devons comprendre que notre Dieu est un Dieu compatissant. Et en Christ, nous trouvons la compassion de notre Dieu. Voici donc la grandeur de notre Dieu. Quelle est la conclusion de ce dernier point? Cherchons-le. Verset 29, cherchons de tout notre cœur, de toute notre âme, ce Dieu-là. C'est là où Claude trouvera l'assurance de l'amour de Dieu dans la parole de Dieu, tout en maintenant un Dieu qui est saint, un Dieu qui juge, un Dieu qui demande de l'obéissance. Mais dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, il trouve le Dieu qui est compatissant. Alors est-ce que nous nous rendons compte de jusqu'à quel point c'est extraordinaire, encore aujourd'hui, chers amis, de confesser un tel Dieu? Car le danger pour nous, le dimanche matin, en sortant maintenant dans une journée normale où il y a un peu de pluie, où il y a des difficultés dans la vie, où il y a la vie normale qui continue, le danger, c'est nous oublions qui est notre Dieu. Aujourd'hui, ce matin, nous sommes rappelés de ne pas oublier qui est Dieu. De ne pas penser que les idoles de notre société sont meilleures que ce que nous avons trouvé en Jésus-Christ. Ne soyez pas des idiots! C'est ça ce que dit Moïse pendant tout un chapitre ici. Bien sûr, il faut la foi, car notre Dieu est invisible. Mais si nous écoutons ce qu'il nous dit, nous sommes émerveillés, chers amis, par ce que nous découvrons. Donc on crie à Claude d'écouter le Dieu qui parle. On crie à Camille de ne pas chercher maintenant des idoles à la fin de son parcours. On crie à grâce de se rappeler, même si elle est confrontée par cette tentation d'un monde qu'elle découvre, non, de se rappeler jusqu'à quel point sans Dieu, le Dieu qui se révèle suprêmement en Jésus-Christ est de loin supérieur à tout concurrent. Les versets 32 à 40, dans la conclusion de cette première prédication de Moïse. Et comment est-ce qu'il conclut au verset 35? Il n'y en a point d'autre que lui. Verset 35, pour que tu saches que l'Éternel est Dieu. Il n'y en a point d'autre que lui. Puis verset 39, tu reconnaîtras. Donc en ce jour, et tu retiendras dans ton cœur que l'Éternel est Dieu dans les cieux, là-haut et sur la terre, ici-bas, et qu'il n'y en a point d'autre. Voici notre Dieu, il faut le connaître, les amis. Je sais que je déborde un peu dans le temps, mais je me souviens le jour où j'étais dans une voiture, il y a longtemps maintenant, avec ma sœur, qui, elle, avait à ce moment-là rien qu'une éducation formelle, catholique, de par notre passé, à deux. Et elle voyait que j'étais en train de lire. Pendant la pause, on travaillait ensemble pour récolter du fruit, pour gagner un peu d'argent pendant nos vacances scolaires. Et on mangeait nos sandwichs dans la voiture, et je prenais un livre qui s'appelait « Connaître Dieu ». Et vous savez ce qu'elle a fait après une petite demi-heure où elle m'a regardé en train de lire ce livre? Elle l'a saisi violemment. Et pas, je constatais pas qu'elle voyait que je lisais. Et elle a dit comme ceci: mais comment est-ce qu'on peut vraiment connaître Dieu? Est-ce que vous connaissez Dieu? Ou est-ce que encore pour vous, Dieu, il est trop loin pour le connaître? Cette exhortation nous pousse à des langues. Vous pouvez connaître Dieu. Et si vous êtes croyant, et vous dites, oui, je sais que je connais Dieu, alors nous ne devons pas oublier ce Dieu. Nous devons le faire connaître dans l'Église, dans nos familles, autour de nous. Prions qu'à travers cette série en Deutéronome, nous puissions découvrir à quel point notre grand Dieu est digne de notre confiance. Je vous invite à la prière. Tu reconnaîtras donc en ce jour et tu retiendras dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, dans les cieux, là-haut et sur la terre, ici-bas, et qu'il n'y en a point d'autre. Donne-nous, Seigneur, de comprendre qui tu es, de saisir que nous pouvons te connaître grâce à Jésus-Christ, et d'approfondir notre connaissance de qui tu es pour que nous puissions te rester fidèles. Donne-nous la grâce de faire cela tout au long de cette nouvelle semaine qui s'ouvre devant nous. Au nom précieux de Jésus, nous te prions. Amen.